Bienvenue au balado Les Petits Caractères, l'espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Aujourd'hui, on discute avec Alicia Marchetta, avocate chez Options Consommateurs.
Conseillère budgétaire.
Conseillère budgétaire. Ah, mais tu nous arrives avec un sujet assez lourd quand même, là, pour... ben, conseillère budgétaire, c'est un excellent titre, mais tu as quand même fait pas mal de recherches de ce que je vois.
J'ai des études en droit. Ça m'aide à comprendre qu'est-ce qui est droit, mais aujourd'hui, dans la chronique, on va surtout parler... on va prendre le sujet d'un angle d'impact sur les consommateurs et l'impact surtout financier.
OK. Puis ce sujet-là, c'est les contrats de financement de meubles. En quoi est-ce que c'est un phénomène?
Oui, donc bonne question. Je voulais faire cet épisode de podcast-là en vue de la saison du déménagement, qui est dans quelques mois, mais quand même, on commence à se préparer déjà pour ces achats-là. Peut-être qu'on va s'acheter des nouveaux meubles, puisque, bon, ben on déménage dans un nouvel appartement, on refait notre décor. Et puis, en fait, ça... Dans les dernières années, on connaissait accéder pour les magasins de surface, le financement de meubles dans ces magasins-là. Et puis en 2019, j'ai dit accéder, mais c'est plutôt accorder.
Donc accorder.
Accorder avec Desjardins. Accéder, c'est leur plateforme en ligne. Mais avec le programme Accorder, en fait, qui était là pendant plusieurs années, en 2019, ils ont annoncé le retrait de ce programme-là dans le marché des meubles, notamment. Mmh. Et puis, en 2023, en fait, ils se sont complètement retirés du marché de financement des meubles. On se retrouve alors avec un espace où il y a surtout deux grands joueurs qui ont pris la place. Donc, on parle de Flexity et de Fairstone, qui sont des financières... parmi tant d'autres, là, à offrir des prêts à taux quand même assez élevés. Ils ne sont peut-être pas connus pour les meilleures des raisons dans d'autres espaces, donc je souhaitais en parler aujourd'hui là, dans l'espace des financements de meubles.
Ben oui, absolument. C'est quoi le type de prêt qu'ils offrent? Est-ce que c'est semblable à ce qu'avaient accordé?
Oui et non, et c'est notamment aussi l'intérêt de parler de ce sujet-là, puisque... Comme dans d'autres sphères financières, donc on voit par exemple les Buy Now, Pay Later qui ont pris une ampleur quand même assez grande dans les dernières années. On voit de plus en plus de fintech apparaître, donc des manières différentes d'investir, de contracter du crédit. On voit aussi une certaine créativité dans la structure des contrats dans cet espace-là. Avant de rentrer plus spécifiquement dans ces nouveautés-là, ouais. J'aimerais ça faire un petit survol là, sur les deux types de contrats de prêt qu'on voit plus habituellement là, dans la sphère des contrats de consommation.
OK. Fait que ce que tu vas nous présenter, c'est des contrats comme normaux. Ben normaux, c'est pas ce qui est présenté pour le financement des meubles.
Absolument.
Tu veux comme mettre la table pour nous dire c'est quoi qui est sur le marché depuis très longtemps, puis... C'est quoi qui est nouveau avec les prêts pour les meubles qui sont arrivés là, vers 2023?
Mm-hmm. En fait, c'est que sous la loi de la protection du consommateur, il existe deux types de contrats. Donc, le contrat de prêt et le contrat de crédit variable.
Okay.
On veut voir ce type de prêt-là. Puis, tu sais, dans la vraie vie, dans le fond, il y a ces deux types de contrats-là, mais en fait, quand on essaie de qualifier un contrat de prêt, c'est pas toujours clair, on se retrouve dans quel...
De ces deux types.
Exactement.
Okay,
puis aujourd'hui, quand on va parler des contrats de meubles, on s'aventurera même pas à les qualifier, puisque, bon, ben de un, il faudrait que je sois avocate pour le faire, et de deux, quand je m'y suis penchée avec une collègue avocate, ben ça requiert un petit peu plus d'études. Là. C'est des contrats qui sont assez complexes pour des juristes. Donc, on peut s'imaginer, là, après ça, pour des consommateurs,
oui.
ça requérait plusieurs heures d'études. Là. Donc, allons-y.
D'accord.
Pour qu'est-ce qu'un contrat de prêt? Donc, simplement, c'est un contrat où, par exemple, attaché ou non à un bien. Donc, par exemple, je peux aller voir ma banque pour un prêt personnel de 5 000 $ je sais déjà la période d'amortissement. Donc, est-ce que c'est un an, deux ans, 36 mois, peu importe. Je connais le taux d'intérêt, les frais qui vont s'appliquer. Et ces taux-là sont déjà inclus dans les paiements. Ce qui veut dire que je fais des paiements égaux tous les mois jusqu'à échéance de mon prêt. Et je savais déjà quand ce prêt-là termine.
OK.
Parfois, on a aussi ce type de prêts-là qui sont associés à des biens. Donc, par exemple, un financement de meubles, ça tombe bien. Ou, par exemple, des prêts d'auto. Ça serait aussi un prêt, un contrat de prêt comme ça. Le deuxième type de prêt qu'on voit, c'est le contrat de crédit variable. Donc, on le connaît surtout, là, cette forme-là, sous carte de crédit, marge de crédit. Mm-hmm. Puis, pour ce type de contrat-là, c'est pas un montant qu'on se fait remettre et qu'on paie par la suite. C'est plutôt une limite qu'on se fait préétablie. C'est ça, qu'on se fait accorder. Et puis, on dépense un peu comme on veut sur cette limite-là. Donc, on peut dépenser... un petit 200, le repayer à moitié, faire un achat de 1000, on connaît un peu tous comment ça fonctionne.
On est bon au Canada pour connaître comment les cartes de crédit fonctionnent.
C'est ça, c'est le mode de paiement le plus utilisé au Canada.
Je savais pas.
Oui, on est bon pour connaître ça. Puis, un aspect important à retenir pour ce genre de contrat-là, quand on parle de crédit variable, il y a un montant minimum qu'on doit payer. Donc, pour les cartes de crédit, surtout si c'est des cartes de crédit récentes, on parle de 5% du solde complet qu'on doit payer mensuellement. À retenir, puisqu'on va parler de ça pour qu'est-ce qui est financement de meubles.
OK.
Donc, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet?
Est-ce que t'es prête?
Oui!
Oui, c'est bon, je t'écoute. Là, il faut être très attentif parce que ça s'en vient un petit peu plus créatif.
C'est ça. C'est un peu plus complexe à comprendre, mais on va y aller de manière simple parce qu'on voit quand même les contrats sont dits traditionnels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plusieurs d'entre nous connaissent les annonces qui ont passé à la télévision. Acheter un sofa, financez-le en 12 mois et ne payez pas d'intérêt. Mm-hmm. Donc, techniquement, c'est qu'on échelonne les paiements, mais on ne paye pas d'intérêt. Dans ce genre de contrat-là, c'est un contrat de prêt où si on manque un paiement, peu importe il est où, ben là, tous les intérêts qui se seraient accumulés pendant ce contrat-là peuvent s'appliquer d'un coup. Donc, on perd le privilège du congé d'intérêt.
Okay.
Ce qui veut dire, on donne un exemple. Par exemple, je finance un contrat de 3 600 $ Mm-hmm. Je manque mon dernier paiement, par exemple. Si c'est à un taux... T'sais, on peut se faire charger, par exemple, le 632 $ d'intérêt, par exemple, qui s'appliquerait si j'ai un taux d'intérêt d'autour de 25 %. Là, c'est pas des vraies figures que j'ai calculées, mais ça donne un exemple.
OK.
Qu'est-ce qu'on a commencé à voir arriver? Parce que c'est quand même assez classique. Bon, c'est si on manque un paiement, malheureusement, les intérêts peuvent s'appliquer. Ça peut être assez coûteux, là, parce qu'on parle de prêts, en général, entre 30 et 35 % de taux d'intérêt.
Ah oui, c'est énorme!
C'est encore plus élevé là, que des cartes de crédit. Mm-hmm. Et à ça peuvent s'ajouter là, parfois des frais d'administration, des frais de retard, dépendant du contrat. Donc, encore une fois, ça peut être assez dispendieux de manquer un paiement.
Ouais.
À ça, ça s'ajoute certaines pratiques dont on peut douter l'éthique, qu'on a vu malheureusement là, arriver.
Parce qu'en tant que tel, c'est de ce que tu me dis, je vois pas le problème dans le fait de tu dois faire tes paiements, sinon il y a de l'intérêt qui s'applique.
Exact. Ça peut être, on a tous des imprévus dans la vie. Mm-hmm. Fait que déjà là, ça peut être assez difficile là, d'avoir à payer des intérêts élevé sur un prêt parce qu'on manque un paiement, mais on peut connaître les risques en tant que consommateur qu'on rentre dans ce type de prêt-là. Mm-hmm. Une pratique qu'on a vue arriver justement, c'est, par exemple, on a une consommatrice qui est venue nous voir, qui avait financé un meuble, un sofa, peu importe, et puis qui avait fait, elle avait les paiements, des retraits automatiques.
OK.
C'est ce qu'elle avait convenu avec la compagnie.
Okay.
Tout se passe bien jusqu'au dernier paiement. Elle ne paye pas d'intérêt parce qu'elle est une bonne payeuse. Au dernier paiement, le paiement ne se prend pas automatiquement de son compte. Elle reçoit plutôt un appel de la compagnie de financement qui lui dit, à la soirée de la date échéance, qui lui dit « Si vous ne payez pas, tous les intérêts vous sont chargés. » Bon, parfait, mais elle pensait que c'était une fraude puisque, la consommatrice, tous ses paiements avaient passé automatiquement.
Ouais.
Donc, elle raccroche et puis, quelques jours plus tard, constate que les intérêts complets du prêt lui ont été chargés.
Ah oui?
Est-ce que cette pratique-là est légale ou non? On peut émettre des doutes. Encore une fois, je ne suis pas avocate, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais c'est une manière assez créative, encore une fois, qu'on voit d'encourager le consommateur à payer des intérêts. Okay. Sur un prêt, dans le fond, qui ne lui aurait coûté rien.
Fait qu'est-ce que, dans cet exemple-là, c'est parce que tous les prélèvements automatiques étaient prévus, sauf le dernier, il devait être fait de manière manuelle par la consommatrice?
C'est une bonne question.
Ou est-ce qu'elle avait vraiment fait tous ses paiements puis il y a quand même les intérêts qui ont passé?
Dans ce cas-là, on voyait que la consommatrice, en fait, avait une entente que les paiements allaient être retirés de manière automatique.
Okay.
C'est simplement que la compagnie, pour le dernier paiement, ne l'a pas fait automatiquement.
Ah, OK.
À la place, ils ont décidé de l'appeler pour lui l'encourager à le faire manuellement. On s'entend ou qu'il peut avoir une confusion là, par rapport
à l'étendue. Je vois où tu parlais d'éthique douteuse, puis les deux, on n'est pas avocates, fait qu'on peut pas vraiment s'avancer plus là-dessus, mais je vois où est-ce que je pourrais très bien me faire avoir par quelque chose comme ça.
Même en étant une consommatrice avertie, on s'entend.
Même en animant un balado sur les droits des consommateurs. Là, j'aurais pas d'excuses après la discussion qu'on a, mais...
Je m'avance dans... Ça se corse encore plus quand on parle de d'autres types de contrats qu'on a vus, de d'autres types de pratiques.
D'accord.
Allons-y. Je vais faire l'exemple, je vais le mettre dans la peau d'une consommatrice, de la consommatrice, en fait, qui est venue avec ce deuxième cas-là, où, moi, je suis habituée à la formule du 12 mois sans intérêt.
Mm-hmm.
Parfait. Je me pointe à mon magasin de meubles... près de chez moi, qui a le sofa que je veux. Et puis, dans ce scénario-là, en fait, je veux financer le sofa pour une raison ou pour une autre. Je me fais demander par la compagnie de meubles de demander une préapprobation à la compagnie de financement avec laquelle ils font affaire pour financer le meuble. Je suis allée, parfait. Je vais obtenir ma préapprobation. Je reçois presque automatiquement, parfait, vous êtes préapprouvé pour 5 000 Good, le sofa que je voulais acheter est de 3 600. Ça rentre dans ma limite. Parfait. Mm-hmm. Donc, moi, en tant que consommatrice, je signe le contrat. Là, je reçois mon premier relevé, mais je le regarde à moitié parce que je sais que les paiements passent automatiquement. Donc, je vois qu'il y a un paiement de 180 $ qui a passé sur carte de crédit, carte débit, peu importe. Parfait.
Ouais.
C'est bon. Je vois que le deuxième paiement passe. Il est un petit peu plus bas, mais ça fait un mois que le premier paiement est passé. Je me rappelle pas trop qu'est-ce qui était. Parfait. Je vois que ça passe. Fait. Arrivé au 12e mois, je fais « bon, parfait, il y a une centaine de dollars qui s'est libéré, en fait, dans mon budget. J'ai fini de payer mon sofa. » Où que ça se course? C'est que, en fait, le 3e mois, je vois qu'il y a un paiement qui se passe. Là, je fais « hé, qu'est-ce qui s'est passé? » Non seulement, là, je vais voir sur mon portail ou de la compagnie de financement, je vois non seulement qu'il me reste un solde à payer sur mon sofa, mais qu'il y a des frais qui se sont rajoutés de 800 $ Je fais, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'appelle Option consommateur.
Oui!
Et puis, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ici, en fait, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de prêt, on se rappelle, où mon 3600 $ se serait fait diviser en 12, donc je paye un 300 $ puis parfait, si je paye tous mes 300 $ à temps, pas d'intérêt, pas de frais qui s'appliquent. Ici, plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la compagnie de financement m'a ouvert un contrat qui ressemble à du crédit variable, on va le dire comme ça. Donc, c'est comme si, on va utiliser l'exemple d'une carte de crédit pour illustrer, mais je ne dis pas que c'est une carte de crédit ici.
Okay.
C'est un contrat qui ressemble à du crédit variable.
Okay.
Donc, en fait, on aurait pris le 3600 $ de mon sofa. On l'aurait appliqué sur ma carte de crédit, entre guillemets, de 5 000
Ouais.
Et puis, quand j'ai reçu le relevé, en fait, on se rappelle que la loi et la convention prévoient que c'est seulement le montant minimum qui doit m'être indiqué.
Ouais.
Et non, tu sais, sur une carte de crédit, il n'y a pas une portion sur ton relevé qui est écrit « si tu veux payer en 12 mois, paye-t'en ».
Non, c'est ça.
Donc... En tant que consommatrice, à moins que j'aie moi-même fait les calculs de « OK, en 12 mois, si je veux avoir terminé de payer puis pas payer d'intérêt, il faut que je paye tant. »
Je comprends.
Je me suis fait prendre.
OK.
À quoi ça ressemble après ça, pour la suite des choses, mois 13 et suivant?
Mm-hmm.
En fait, c'est comme si on continuait à faire les paiements minimums sur une carte de crédit, mais cette fois-ci à 30 à 35 % plus... potentiellement d'autres frais de crédit qui s'appliquent. J'ai fait rapidement les calculs ici sur un prêt de 31%. Si on paie seulement le minimum sur mon sofa de 3600 pour lequel j'ai déjà fait un paiement d'un an,
ouais.
Somme toute, ça pourrait me prendre jusqu'à un 12 ans additionnel pour payer.
C'est fou!
Si je continuais seulement à faire mes paiements minimum.
Ben, c'est ça, ça ressemble à une carte de crédit un peu, mais là, c'est 35% au lieu d'environ 20%. Puis le paiement minimum, qui, si c'est du nouveau crédit, c'est rendu 5%. On s'entend, si on paye 5% chaque mois sur quelque chose qui a 35% d'intérêt... Ça peut être long avant de voir le bout, là.
Exactement. Fait que là, bon, rien ne nous empêche d'en payer plus, mais reste que la consommatrice qui pensait financer un sofa sans intérêt, bien, se retrouve avec un contrat de prêt extrêmement coûteux.
Ben oui, ben oui. Puis ça veut pas dire qu'elle a les sous, là. Ça fait déjà un an qu'elle fait des paiements. Fait
que... Exactement.
Ben comment est-ce que les consommateurs peuvent se protéger de ça?
Très bonne question. En fait, c'est certain que... si on est capable de sauver pour s'acheter ce sofa-là. T'sais, si on prend notre... C'est pas toujours possible, on s'entend. Des fois, bon, ben on n'a pas de sofa parce que c'est la première fois qu'on déménage. On s'est séparés, on n'a plus de sofa. Puis il nous en faut un. Si, bon, on veut vraiment acheter le sofa qu'on voit, on peut penser à économiser. Plus simple de dire qu'à faire, en fait.
Oui, mais tu sais, ça serait de le prioriser si on voit qu'on est capable de le faire. C'est ça que...
Exactement. Puis, bon, ben qu'est-ce qu'on peut faire? C'est automatiser les économies. Donc, comme on automatiserait, par exemple, le paiement de sofa si on l'aurait financé, ben on fait simplement le mettre de côté et on ne risque pas, en fait, de tomber...
C'est vrai.
À payer des intérêts ou, ben s'il y a un mois qu'on n'est pas capable de faire ce virement-là de 300 $ ben
on le fait pas, finalement.
On le fait pas, c'est tout.
C'est ça. Puis, en plus, on peut mettre ce 300 $ dans un compte à intérêt élevé. Fait qu'on va se faire payer des intérêts au lieu d'en payer pendant la période d'accumulation.
Exactement.
Parfait.
On peut aussi penser au marché de seconde main, encore une fois, toujours. Donc, sur Marketplace, sur Facebook, sur Kijiji, les sites de revente, parfois amis, famille, ça peut être un moyen abordable d'obtenir un sofa. Et si vraiment, là, on décide d'acheter neuf au magasin et on doit le financer, ici, on pourrait penser à utiliser les produits de crédit qu'on détient déjà. Donc, si on a une marge à plus faible taux, c'est rare qu'on dise ça, mais même la carte de crédit, elle est à plus faible taux ici. Est-ce que je suis en train de suggérer de financer un sofa sur une carte de crédit? Pas
non.
Nécessairement. mais on peut penser à être un petit peu plus créatif là, au niveau de... avant de rentrer dans ce genre de contrat-là.
Ouais. Ou de voir qu'est-ce qui nous est déjà accessible là, en tant que tel avec la banque ou avec la caisse avec laquelle on fait affaire. Là.
Exactement, exactement. Et puis, de toujours lire, je sais que c'est pas évident, mais de toujours lire les contrats, si on ne comprend pas, de pouvoir s'informer, d'appeler notre association de consommation préférée, de poser des questions aussi là, à la personne qui nous finance, qui nous offre ce contrat-là. Puis si on ne répond pas ou on répond de manière un petit peu floue ou qu'il y a un sentiment d'urgence, ben c'est les drapeaux rouges habituels.
Ouais.
On y repense peut-être deux fois.
En tant que consommatrice, est-ce que je peux, par exemple, vous envoyer un contrat que je me pose des questions dessus puis vous pouvez me répondre à mes questions?
Oui, oui, c'est quelque chose qu'on fait, autant avec les conseillères budgétaires, où on va donner de l'information plus générale et on peut parler d'impact sur le budget, autant qu'avec les avocates, si nécessaire, on peut regarder un petit peu plus en détail là, les clauses du contrat.
OK. Non, mais c'est bien intéressant. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter?
Non, je pense que ça fait le tour.
Ça l'a bien été.
Oui.
C'est excellent. Je sais qu'il y avait beaucoup de subtilités, puis tu voulais pas qu'on se perde ou qu'on se trompe, mais moi, je pense que ça a été très clair, puis très aidant également pour tous les consommateurs, dont moi. Fait que merci beaucoup, Alicia.
Ça me fait très plaisir, Marianne.
On poursuit avec Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. Allô, Joanne?
Allô!
Aujourd'hui, on discute... c'est une discussion qui se veut être... sensibiliser les consommateurs au phénomène de la violence économique, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Tu trouves que c'est pas assez parlé, selon toi?
Bien, je pense que c'est difficile parfois de se rendre compte d'une situation de violence économique. Parfois, on peut en vivre. Parfois, on peut la faire subir. Puis on n'en est même juste pas conscient.
Fait que c'est quoi la violence économique?
Bien, c'est une situation où on va exercer un contrôle sur l'autre. On l'empêche d'accéder à son autonomie financière, tout simplement. On peut priver la personne d'argent, on peut l'empêcher de répondre à ses besoins, on peut la contrôler ou la surveiller. Ça, c'est des actes de violence économique. Concrètement, tu sais, c'est très souvent, ça va être exercé par un conjoint. Ça peut aussi se faire dans d'autres cadres, comme parent-enfant, tu sais, un adolescent. Qui va aller travailler, le parent veut pas, tu sais, pas du tout,
ouais.
Pour garder, tu sais, pour s'assurer que la personne ne sorte pas. Ça peut être aussi dans un cadre avec des personnes aînées, des enfants, des petits-enfants qui peuvent abuser ou de la personne qui est très généreuse. Puis. Fait que ça peut se faire dans plusieurs cadres.
Relations, ouais.
Oui. OK. Dans la violence, tu sais, il y a un côté intime, tu sais, quelque part. C'est quelque chose qui se passe avec une personne qu'on aime.
Mm-hmm.
C'est plus là où je veux aller là, quand on veut parler de violence économique. Puis c'est ce qui est difficile aussi là, à se rendre compte, parce qu'on l'aime, la personne. Les choses s'installent dans le temps. T'sais, généralement, au début d'une relation amoureuse, plus particulièrement, les choses se passent bien. Puis c'est après... ça peut être après même plusieurs années que les choses commencent à déraper tranquillement, pas vite.
Mm-hmm.
Puis là, on va se mettre à poser des petits gestes qui ont l'air de rien, qui ont l'air anodins, mais comme par exemple, « Ah tiens, tu me prêterais-tu ta carte de crédit? Je vais aller faire un achat, puis je vais t'en remettre plus tard. » Puis la carte ne revient pas. Tu te rends compte à un moment donné que la personne a fait des prêts, mais en ton nom. Tu peux te rendre compte que la personne va te demander d'aller payer des choses, tu sais, que toi, c'est pas toi qui a décidé d'aller acheter ça. C'est toutes sortes de petits gestes qui, sur le coup, tu peux avoir juste l'impression de rendre un service, mais en réalité, la personne est en train de contrôler les revenus qui rentrent, les dépenses qui sortent. Puis, il y a un étau qui se resserre doucement.
Je comprends la nuance de ce que tu veux amener, dans le sens où ça part pas toujours d'une mauvaise intention, mais ça peut le devenir. C'est quelqu'un, par exemple, qui pense qu'il vit temporairement un problème au travail ou qui se fait licencier, qui décide de pas en parler, pense que c'est très temporaire. Là, il se met à prendre des prêts, mais il est comme, tu sais, c'est pour ne pas inquiéter ma famille, mon conjoint ou ma conjointe. Tu sais, ça peut partir de là, mais reste que c'est de la violence économique.
Surtout si le prêt est pas à votre nom. Ouais. Surtout si on utilise la signature d'une autre personne. Surtout, tu sais, sachant qu'on a perdu son emploi, puis que là, on n'est pas en mesure de pouvoir contracter du crédit.
Ouais.
Puis qu'on utilise les noms, les codes, les NIP d'une autre personne sans son consentement.
Mm-hmm.
De toute façon, tant qu'à moi, un NIP, ça devrait jamais s'échanger, là,
ouais.
Cela dit. Mais, tu sais, si on usurpe de l'information d'une personne pour pouvoir l'utiliser pour son profit personnel, là, on est dans de la violence économique, là. Il y a un contrôle, il y a une manipulation qui est en train de se faire.
Ouais.
Puis c'est volontaire, là. Il y a quelque chose de volontaire, même si ça part d'une bonne intention.
Puis on peut penser que c'est pas pour son bénéfice personnel. On peut penser que c'est pour la famille. Ouais, c'est pour notre futur. Là, en ce moment, c'est difficile. Je veux pas y en parler. Mais au final, c'est la personne qui en bénéficie.
Il y a un contrôle qui se fait. C'est ça. L'autre personne ne dispose pas de toutes les informations pour être capable de prendre des décisions à bon escient. Est-ce que la personne qui est devant vous prendrait la même décision si elle avait accès à l'ensemble du portrait? Possible que non. Est-ce qu'elle irait contracter un prêt vue d'acheter quelque chose de nouveau?
Oui, aussi.
Si elle savait que vous n'avez pas votre emploi, peut-être qu'elle dirait là, on attend un petit peu.
Mais
on va attendre que ça se résorbe, que tu trouves un nouvel emploi, puis après, on va le faire. Puis oui, ça me fera plaisir à ce moment-là, mais là, moi, on est en situation d'insécurité financière. Je préfère préserver mes acquis, faire attention. On prendra la décision ultérieurement. Si on cache de l'information, si on ne donne pas le portrait global de la situation pour que l'autre puisse prendre des décisions éclairées, il y a une forme de manipulation là-dedans. Puis il y a tout l'aspect aussi du contrôle. Par exemple, tu sais, si on refuse de parler de la situation financière avec son partenaire, Je peux bien demander, moi, que mon partenaire paye 50 % de mes dépenses, mais c'est lui, il ne sait pas que moi, j'ai eu, ça fait 4 fois que j'ai une promotion, puis que finalement, j'ai eu des grosses, grosses augmentations de revenus, puis que j'incite mon partenaire à vivre carrément au-dessus de ses moyens. Je sais que cette personne-là ne peut plus faire autre chose que juste essayer de me suivre.
C'est vrai.
Fait que là, je suis en train d'hypothéquer sa capacité de pouvoir se sécuriser financièrement. Elle ne peut plus épargner. Elle ne peut plus prendre soin d'elle dans le futur. Mm-hmm. Je suis en train d'exercer un contrôle là, sur ses possibilités-là.
Oui. Oui. Puis c'est aussi, c'est aussi l'amener à avoir un style de vie qu'elle n'est pas capable de soutenir.
Ça peut être une possibilité. Des fois, c'est fait volontairement, c'est assumé, c'est ouvert, on en discute. Si c'est un choix qui est fait de manière consentie, c'est une chose. Mm-hmm. Mais quand on cache de l'information ou qu'on impose quelque chose, un style de vie qui n'est pas nécessairement voulu par l'autre, là, on est ailleurs. On est plus dans le contrôle, dans la manipulation. Mm-hmm. Mais ça peut être plus pernicieux aussi, là. Ça peut être pendant la relation où on ne dit pas tout, où on prend contrôle aussi des outils financiers de la personne sans qu'elle le sache. Ça peut être aussi après la relation. Il peut y avoir de la violence économique aussi dans le cadre d'une séparation, d'un divorce. Par exemple, il y en a qui vont refuser de payer une pension alimentaire et d'assumer leur part de responsabilité par rapport aux dépenses qui sont liées aux enfants. C'est une forme de violence économique que de ne pas vouloir assumer sa part de responsabilité, d'être quirulant à la cour, de vouloir poursuivre sans cesse, d'engager des frais juridiques qui ne sont pas nécessaires, mais simplement parce qu'on sait que l'autre personne n'a pas les moyens de pouvoir aller en cours de manière récurrente. On sait qu'on va l'épuiser à la longue puis que finalement, on va laisser tomber. C'est une forme de manipulation, c'est une forme de contrôle exercé aussi sur l'autre. Il y a beaucoup de sous d'engager parfois là-dedans.
J'imagine. Puis quelqu'un qui est victime de violences économiques, j'imagine qu'il y a des symptômes qui sont rattachés à ça. Ça peut être quoi les effets?
Bien, les impacts, en fait, oui, il y a des conséquences. Ça peut avoir un impact sur sa santé physique, mentale, parce que si on ne me laisse pas jamais gérer mes choses ou on va dénigrer les décisions que je fais constamment, à un moment donné, il y a une perte de confiance qui peut s'installer, puis ça diminue les habiletés aussi de la personne à rester autonome financièrement, à continuer de poser ses actes dont elle a besoin pour pouvoir s'occuper d'elle. Ça peut aussi avoir un impact sur la santé physique, mentale, causer beaucoup de stress, d'anxiété, voire même de la dépression. Là, à ce moment-là, tu sais, il y a des ressources aussi là, pour aider à ce niveau-là, mais il y a aussi des conséquences, surtout au niveau financier. La personne peut subir de grandes pertes économiques. Elle peut se retrouver avec des endettements qui sont non désirés. Elle peut avoir un dossier de crédit entaché. Ça veut dire qu'elle va avoir de la difficulté à se trouver un logement par la suite. Ça va limiter sa capacité d'emprunter. Elle peut se retrouver en situation aussi de dépendance financière, où là, ses mouvements vont être plus limités, complètement dépendante de l'autre personne. Elle sera plus en mesure de faire des choix libres et éclairés. C'est pas négligeable comme effet.
Non, c'est ça, c'est pas négligeable. T'sais, le sentiment aussi qu'on a quand on a de l'autonomie financière, ça apporte une confiance en soi, comme tu dis. Ça diminue le stress de sentir qu'on a le contrôle sur nos finances, ça diminue l'anxiété, puis ça l'aide au bien-être général. Quand quelqu'un a trop de contrôle sur notre vie financière, qu'on sent cette perte de contrôle-là, s'ensuit perte de confiance, s'ensuit stress, anxiété. C'est rare que quand on est en dépression ou en situation d'anxiété extrême, que c'est là où on est le plus performant au travail, où on fait les meilleures décisions financières, ou même où est-ce qu'on est le plus attentif, qu'on est plus porté des fois à ce que les accidents nous arrivent quand on est dans des états d'esprit comme ça, des accidents d'auto, des accidents physiques, qui fait que des invalidités ou des frais à payer franchise d'assurance automobile. Tu sais. Je vois vraiment où est-ce que ça peut venir. Puis, tu sais, en fait, je vois beaucoup de cas de violence économique là, dans mon entourage. C'est dommage, là, mais il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Là. Depuis que j'ai depuis que j'ai appris c'était quoi, puis que j'ai lu là-dessus, je vois à quel point ça peut s'infiltrer dans des relations tellement rapidement. Il y en a que c'est tellement c'est plate parce que les relations, est-ce que c'est le plus flagrant? Tu le vois que c'est pas toi qui peux venir en aide à ces personnes-là. Mais même dans certaines autres relations, où est-ce que je vois que ça s'est infiltré, mais après, ça a pu s'en aller. Ou tu sais, même moi, personnellement, avec mon chum, des fois, je me suis dit, ah, tu sais, là, j'ai telle situation, j'avais pas nécessairement envie de lui parler de ça. Tu sais, c'est comme, ah, j'étais plus stressée, j'avais perdu un contrat, j'avais blablabla. Mais là, tu sais, on décidait de déménager ensemble. Fait que j'ai comme, faut que je lui en parle. Mais je te jure, si j'avais pas lu sur la violence économique, je pense que je l'aurais gardé pour moi. Mais j'ai vu tout ce que ça pouvait apporter. Puis aussi, tu sais, d'être avec une personne, d'avoir un conjoint-conjointe qui t'écoute quand tu as une situation comme ça puis qui n'en prend pas avantage, c'est vraiment un drapeau vert pour le reste de la relation.
Ben voilà, tu sais, quand on est dans une relation saine, la personne ne veut pas nécessairement prendre avantage sur toi. On est là ensemble, faire équipe, prendre des décisions qui vont nous convenir à tous les deux. Des fois, il peut y avoir des coups durs temporaires, mais on se lève les manches, puis on regarde ensemble comment on peut passer au travers. Mais on ne prend pas avantage sur l'autre.
Mais pour ceux qui sont dans cette situation-là, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir?
Bien, il y a la première chose à faire, je pense, c'est de ne pas s'isoler. Si on s'en rend compte, c'est de ne pas s'isoler. C'est d'en parler avec une personne de confiance. Si vous constatez que vous avez des amis dans votre entourage, tout à l'heure, tu me parlais, tu sais, que tu vois des choses, continuer à garder le lien avec la personne.
Ouais.
Ça se peut que la personne n'est pas prête à l'entendre, même si vous voyez des gestes concrets, ça se peut que la personne ne soit pas prête à l'entendre, mais le fait que vous soyez là au moment où elle sera prête à en parler, vous serez là pour l'entendre. Okay. Et c'est d'avoir cette reconnaissance-là par rapport à son vécu, ça peut être très, très, très aidant pour la suite des choses. Entourez-vous des amis, des membres de votre famille qui vont être là pour votre bien à vous. Vous pouvez aller voir des professionnels de la santé. Vous pouvez en parler avec votre médecin, votre psychologue, votre thérapeute, un travailleur social dans un CLSC. Mais il y a aussi SOS, violence conjugale, qui peut vous être de bon secours. Les CAVAC, les maisons d'hébergement. La police, même si on est dans des histoires de fraude,
ouais.
Ça va jusque-là parce que ça peut aller jusque-là. La police peut être d'un secours. Au niveau juridique, il y a aussi les centres de justice de proximité qui peuvent vous expliquer vos droits, qui peuvent vous offrir des ressources qui sont importantes, nécessaires, informelles, jury pop, la commission des services juridiques par le biais du programme Rebâtir, l'aide juridique aussi. Peut être d'un bon secours pour vous orienter.
Bien, excellent. Je pense que ça offre plusieurs pistes pour les gens qui se questionnent sur la question. Ils peuvent appeler à ces endroits-là, ça n'engage à rien, on demande des informations. Mais je te remercie énormément, Joanne, pour ton temps.
Bien, ça m'a fait plaisir.
Merci également à la maison d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à aller communiquer avec Options Consommateurs sur les réseaux sociaux ou sur leur site Internet. Passez une belle journée et au plaisir!